طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، اللهم بصرنا بعيوبنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحاديث البروفيت صلى الله عليه وسلم، le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، je vais le dire en arabe, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. Très lourd ce hadith, de sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يحمل هذا العلم, cette science elle sera portée, من كل خلف عدوله, de chaque génération postérieure, les gens les plus fiables, les plus dignes de confiance. Cette science, elle sera portée dans chaque génération par ceux qui sont plus fiables, ceux qui sont plus dignes de confiance. يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ. Ils le préservent des falsifications des extrémistes. Il le préserve, c'est-à-dire il préserve cette science, cette religion, tahrif al-ghalin, des falsifications des extrémistes. Ou intihal al-mubtilin, et de déviation des égarés. Fin du hadith. Le hadith il est dans Al-Jami' les akhlaq al-rawi, tome 1, page 15. Alors, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette religion, elle sera portée, l'ilm, cette religion, elle sera portée par ceux qui sont fiables. Donc, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il a parlé de la fiabilité, d'être digne de conscience, confiance, l'adala, yahmiluhu, je parle, min kulli khalafin udulu. Donc, le prophète, il a parlé déjà de l'adala. D'où les savants du hadith ont parlé de l'adala, de la fiabilité, quelqu'un qui est digne de confiance. Me fond. Donc les savants, ils ne ramènent pas quelque chose comme ça. Enfin. يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ. Il le préserve, il l'éloigne. تَحْرِيفَ, de la falsification des extrémistes, parce que les extrémistes dans les idées, les extrémistes dans la croyance, dans le fait, dans tout ce que vous voulez, il le préserve. De ceux qui veulent rajouter, le rendre dur, etc. وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ. Et de dérapage de ceux qui sont des sectes égarées. Ce sont des gens fiables, ils préservent tout au long, éternellement, cette religion, jusqu'à la fin des temps. Par en avant. Naam. Soit il est bon, soit il est sahih. Hassan ou sahih. Un des deux. Il n'est pas live. Donc, maintenant, on revient à notre cours. Toujours dans la question de la fiabilité. Donc, les savants du hadith ont dit qu'il est déconseillé de rapporter des hadiths des gens qui appartiennent aux sectes, groupes qui ne sont pas sunnites. On a dit qu'il est autorisé de apporter un hadith de quelqu'un qui n'est pas sunnite, à condition que ce ne soit pas un mécréant, etc., et que ce ne soit pas quelqu'un qui appelle à sa bid'a. Vous vous rappelez, on a dit ça la dernière fois. Donc, sauf qu'il est déconseillé. La méthodologie des savants, quand ils discréditent des rapporteurs, ils sont plus stricts quand ils discréditent que quand ils dans la crédibilité. C'est-à-dire, vous avez un rapporteur de hadith, on a vu qu'il y a des grands spécialistes qui sont spécialisés dans une. Vous rappelez, on a parlé qu'il y a plusieurs sciences de hadith. Là, on est en train de parler de la science de ceux qui sont là que pour soit donner tel rapporteur hadith, il est crédible ou il n'est pas crédible. Donc on va étudier sa personnalité. On va étudier sa personnalité. C'est les spécialistes, hein. Point de vue mémorisation, point de vue sa croyance, point de vue c'est quelqu'un qui appartient à un courant égaré ou c'est quelqu'un qui est sunnite, etc., etc. À la fin, on va dire, on va lui donner un statut. À la fin, ils vont lui donner un statut. Vu, mais eux, ils sont très stricts. Ils sont, on va dire, parce que tu vas donner tel, tu vas lui donner une crédibilité. Bon, il est crédible, il n'y a pas de problème. Mais, point de vue pour le discréditer, ils sont stricts là-dessus. Stricts, c'est-à-dire, ils ne lâchent pas. Oui. Non, le rapporteur, on part du rapporteur, pas du hadith. Ben, on discrédite le rapporteur pour discréditer le hadith. Vous voyez où on va? Ce qui nous intéresse, c'est le hadith. Alors que, vous ajoutez, hein, ou bien alors, où, au moment où les spécialistes de cette science peuvent donner la crédibilité à un savant, à un rapporteur, pardon, du hadith, sans dire pourquoi. Et tu dis, tel il est bien. Ils ne sont pas obligés. Par contre, quand on le discrédite, on est obligé de dire pourquoi. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de tel? C'est quelqu'un de bien, khalas. Tu ne peux pas dire pourquoi il est bien. Ah, parce qu'il est bien, khalas. Tu ne vas pas dire, il est dans Zakat. Non, on ne dit pas. Parce que quand il n'est pas bien, ah, il n'est pas bien, par contre, il faut dire pourquoi il n'est pas bien. Mais bon, c'est pour ça qu'ils sont stricts quand on dit il n'est pas discrédité. Vous avez noté? Alors que ces savants-là, ils rejettent le fait de discréditer quelqu'un s'il n'est pas justifié. C'est-à-dire quelqu'un, un rapporteur d'un spécialiste, il va nous dire tel rapporteur, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Est-ce qu'on prend en considération ça? La plupart disent non. Il faut l'expliquer pourquoi. D'accord? Il faut expliquer pourquoi. Parce que tel. Pas tous. Il y en a ceux qui acceptent. C'est pour ça que je dis la plupart du temps. Il faut bien mesurer les mots que j'utilise. Alors, les savants de la science du hadith, écrivez, étaient très stricts vis-à-vis des rapporteurs des hadiths, au degré que ceux qui commettent le moubah, qui est autorisé, mais mal vu, comme, c'est-à-dire, ils rejettent la parole des rapporteurs de hadith que ceux qui commettent un mubah, quelque chose qui est permis, mais mal vu, c'est un mubah, mais mal vu, comme manger dehors ou dans le marché, ou bien trop rigoler, c'est-à-dire abuser dans le mouzah, c'est-à-dire l'amusement, ou bien ceux qui jouent aux jeux d'échecs. Tout ce qui est les jeux de hasard, Monopoly, machin, etc. Il joue au Monopoly, au jeu d'échecs, il va rapporter un hadith. Ça va du hadith, c'est moubah, c'est pas haram. Hein. J'ai un sandwich, je l'ai mangé tout à l'heure en marchant dans la rue. Est-ce que c'est haram? C'est pas haram, c'est mal vu. Quelqu'un, un cheikh, rapporte un hadith, tout ça, il mange dans la rue. Ou bien il joue au jeu d'échecs. Ou bien c'est autorisé. Mais ils ne prennent pas de lui le hadith. Tellement ils sont stricts. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un qui commet du mubah, mais un petit peu mal vu. Ou bien celui qui joue aux instruments de musique. Il a une guitare chez lui, il joue, mais il rapporte le hadith. Il ne prend pas de lui. Moi, je pique.
Non,
c'est pas mal. Tu imagines un rawi de hadith avec piano.
Ça
me
rappelle un peu, il me disait que, je ne sais pas si c'est vrai.
Il fait une culture.
Non, m'a dit qu'il joue du piano.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj a dit. J'ai rencontré un certain Najia, un homme qui s'appelle comme ça Najia, qui rapporte des hadiths. Apparemment, c'est quelqu'un qui est célèbre, il rapporte des hadiths. Il les rapporte d'un autre rapporteur des hadiths qui s'appelle Abu Ishaq. Je l'ai vu en train de jouer au jeu d'échecs. Donc il a vu Najia en train de jouer les jeux d'échecs. Il est allé pour rapporter de lui des hadiths. Quand il est allé le voir, il l'a trouvé en train de jouer au jeu d'échecs. Donc l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj dit, j'ai rencontré Najia qui qui rapporte des hadiths de Abu Ishaq, je l'ai trouvé en train de jouer au jeu d'échecs. Je l'ai laissé, j'ai pas écrit de lui les hadiths. Je l'ai laissé, j'ai pas écrit de lui les hadiths. C'est-à-dire, j'ai pas encore terminé hein, la phrase. J'ai pas écrit de lui des hadiths. ثم كتبت عن رجل عنه. Mais comme il sait c'est des hadiths fiables et que ce Shu'ba il ment pas, que ce Najiya il joue seulement au jeu d'échecs. Mais lui, il dit moi j'ai pas pris de lui. Ce que j'ai fait, j'ai pris d'un autre homme qui a pris de lui. Je prends pas de lui, mais j'ai pris d'un autre homme. Il remet pas en cause la fiabilité de ce monsieur. Il dit, en tout cas, moi, de ma vie, j'ai pas pris de ceux qui ont pris, j'ai des chèques. Là, lui, il l'a pris de lui, c'est son problème. Mais moi, j'ai pris de quelqu'un que je parle, j'ai des chèques. T'as compris? Shu'ab ibn al-Hajjaj, il va prendre des hadiths. Il rencontre Najiya. Najiya, il le trouve en train de jouer au jeu d'échecs. Il prend pas de lui. Mais ce Najiya, il a donné des hadiths à des gens. Alors ce Shu'ba, il va prendre les hadiths de ces gens qui ont près de Najiya. Juste pour éviter de rapporter directement de celui qui prend les jeux d'échecs. Bien que celui qui joue des échecs, il a rapporté à un autre. Lui, il le prend de cette personne. Au moins, il l'a pris de quelqu'un de fiable, 100%. Il l'a pas pris de quelqu'un qui joue des jeux d'échecs, bien qu'il sait que celui-là, il l'a pris de celui qui joue aux jeux d'échecs. Ça, juste pour discréditer, je ne le prends pas de toi, moi je le prends de l'autre. Je m'en fous, l'autre il l'a pris de toi, c'est pas moi. Mais moi je l'ai pris de... Mais faut, Inch'Allah. Vous avez compris? Non.
Dans la logique, si tu prends pas de la personne qui est une
pour l'échec, pourquoi il prend pas la c'est pas... Oui, mais lui, c'est juste pour le blâmer. Pour le blâmer, pour dire, je prends pas de toi. Je prends de l'autre... Et lui, il prend de toi, c'est son problème, mais au moins, lui, il joue pas. Moi, j'ai pris de lui. Alors, les savants de cette science de discréditer ou donner la crédibilité aux rapporteurs de hadith, quand ils traitent le sujet de discréditer les rapporteurs dans leurs ouvrages, ils vont pas s'étaler de dévoiler leurs péchés. Ils vont pas s'étaler de dévoiler leurs péchés. Donc ils vont se limiter à dire telle personne est faible, mais quand tu vas lire pourquoi il est faible, machin, il va te dire pourquoi. C'est-à-dire ça, c'est le titre qu'ils mettent. Tel, il est faible. Mais lui, il sait pourquoi il lui a dit qu'il est faible. Non. Tel rapporteur, on parle du rapporteur, on ne parle pas. Le hadith, on va le traiter après. Ou bien telle personne, laïsa bichay, il n'est rien du tout. Il n'est rien. C'est pire.
C'est pas gentil.
Ben non, c'est gentil parce que déjà ils sont gentils parce qu'ils n'ont pas dit pourquoi. Donc, si ils ont commencé à dire pourquoi, tu vas dire pire que. Tu vas dire espèce d'un pourri. Celui-là rapporte des hadiths. Donc, eux ils sont déjà gentils qui disent ça. Les sabichés, c'est entre eux, c'est une terminologie, mais hiérarchique. Hiérarchique. C'est-à-dire du moins bon ou un petit peu moins bon jusqu'à ce qu'on. D'accord, vous allez voir. Ou bien ils disent Foulan ou Matrouk. Tel, il est délaissé. Un truc. Délaissé. Et ainsi de suite.
Pourtant, il y a bien un endroit où ils ont justifié leur jugement.
Oui, parce qu'il y a des ouvrages, quand ils expliquent brièvement, un ou deux mots, il est délaissé parce qu'il ne mémorise pas. Il est délaissé parce qu'il est chiite de croyance. Il est délaissé parce qu'il suit les femmes, machin, etc., sans être machin, etc. Brièvement, ils ne vont pas dire « Oh là là, machin, il a... » D'accord? Non, ils ne vont pas... Alors l'imam Ibn Hajar al-Asqalani a fait une hiérarchie, c'est-à-dire de crédibiliser ou d'accréditer les rapporteurs des hadiths. Alors... les plus crédibles dans les rapporteurs du hadith, je vais voir si vous êtes un petit peu intelligent. Quel est le nom qu'on peut donner à ceux qui sont plus crédibles? Le plus crédible qui nous rapporte un hadith, c'est qui? Qui est-ce qui entend le prophète? Sahaba. Quand on dit Sahabi, khalas. C'est pas la peine de dire. On dit Sahabi, c'est pas la peine de dire. Quand tu dis Sahabi, c'est qu'il est crédible. Mais faut, Inch'Allah. Quand on dit Sahabi, c'est pas dire est-ce qu'on va voir et mémorise, est-ce que quelqu'un de faible, est-ce que c'est quelqu'un qui est. Non, Sahabi, c'est un sunnite, machin, etc. C'est indiscutable, défiable. Donc, premier degré, Sahabi, ou bien ceux dont on donne la crédibilité en disant il est le plus crédible parmi les gens, c'est un degré. Awthaq an-nas. D'accord. C'est-à-dire, le premier degré, le plus haut degré, dire peut-être les sahabis. Ensuite, dire d'autres personnes qui ne sont pas les sahabas, dire c'est un degré. Les plus crédibles parmi les gens. Ou bien dire, toujours dans cette catégorie, hein, dire il est fiqa. C'est-à-dire, il est crédible. Fiqa. C'est crédible, fiqa. Ou la fiable, ce qu'on a dit. Fiable. Donc il est fiable deux fois. On dit fiable. Tu le doubles. Non seulement il est fiable, mais fiable. Ma femme, il est fiable deux fois. Tu dis fiable. C'est le tawkid. Dans le Coran Karim, on a le tawkid lafdi. Ensuite, on a dans la même catégorie, tout ça, ils ont la même catégorie qui vient après le Sahaba. D'accord, on a la catégorie de Sahaba, ensuite catégorie meilleur des gens, fiable, ou bien fiable, hafiz. Il est fiable, hafiz. C'est des synonymes, mais si vous voulez, entre eux, ils sont chronologiquement selon ce que je vous dis. Le premier, il est plus crédible que celui qui vient, mais ils sont tous font partie de la deuxième catégorie après les Sahaba. Ce n'est pas forcément les élèves de Sahaba. Et peut-être en 4e siècle, 3e siècle, 2e siècle. Ma forme. Donc, alors, ça c'est le deuxième. Troisième catégorie. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que ça. Ok. Fiqa hafiz. Fiable. Hafiz, on les laisse hafiz. Hein. On ne peut pas dire mémorisateur, on les laisse hafiz, c'est mieux. Ensuite, troisième degré de ceux qui sont crédibles, fiqa, fiable, ou bien mutqin veut dire une maîtrise. Donc ça, c'est des surnoms. Tel rapporteur, il est maîtrisant, il maîtrise. Ou bien il est fiable. Tout ça fait partie du troisième degré. Moutrine, ou bien aussi, troisième synonyme, Thabt. Thabt, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui mémorise, comment on peut dire ça? Il est vraiment à la lettre. Il se trompe jamais d'une virgule ou d'un fetha que sera thabt. Entre parenthèses, mettez très rigoureux. Thabt. Moutrin, c'est avant lui. Moutrin, c'est maîtrisant. Moutrin. Ensuite, on passe à la quatrième catégorie. Alors, on est passé des plus crédibles aux moins crédibles, mais toujours dans la hiérarchie de ceux qui sont crédibles. Ensuite, on va passer à ceux qui ne sont pas crédibles. Du bon au moins bon. Là, on passe du très bon au moins bon, mais tous ils sont acceptables. D'accord? Vous remarquez qu'ils sont tellement rigoureux qu'ils ne disent pas, bon, il est acceptable, khlas. Non. Même dans la hiérarchie de ceux qui sont acceptables, il y a une hiérarchie. D'accord? Alors, on a dit quelle catégorie on est? Quatrième. Ils disent, sadouk, véridique. Il dit, il ment pas. Hein? C'est véridique. On peut traduire comme ça. Il ment pas. Sadok. Ou bien ils disent la ba'sa bihi. Toujours la même catégorie. La ba'sa bihi qu'on peut traduire par il est bien. Ou bien laysa bihi ba's. Bien. Il y a la ba'sa bihi. Il faut dire que la ba's. Ça veut dire la ba's. Normalement c'est la. Basse. La basse. Il n'y a pas de problème. La basse, c'est quoi? C'est la basse. Et normalement, basse. dans chez Warsh, on dit Bas, mais Bas. Bas, là, Bas, c'est le malheur, le problème. D'accord. Donc la Bas, ils disent la Bas sans savoir. Donc la Bas, oui, la Bas abihi. Donc il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème dans Aqida, mémorisation. D'accord. Alors, il y a la Bas abihi, ou bien Laïsa bihi Bas. Laïsa, il n'a pas de problème. C'est la même chose. Laïsa bihi Bas. Ça, c'est la quatrième catégorie. Maintenant, on va passer à la cinquième catégorie. Toujours dans ceux qui sont acceptables. Il y a Sadouq. Ça, on peut traduire. Hein, ce n'est pas indiqué en arabe. Bon, on peut directement montrer la traduction. Sadouq, c'est ul-hibl. Véridique, mais il ment pas. Mais il mémorise mal. Ou bien, véridique, virgule, toujours dans la même catégorie, véridique, sadouq on yahim. Véridique, mais il oublie. Il oublie, yahim. Il confond. Il confond. Il oublie. Ou bien, on ne dit même pas qu'il est sadouq, mamacha, on dit seulement, lahu awham. Il oublie souvent. Il oublie souvent. Donc toujours dans la même catégorie. Il se trompe. Alors, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'honnête. Mais quand on lui dit, qui est-ce qui a rapporté ce hadith? Il dit tel. Lui, il s'est trompé. Il les connaît, il se trompe. Ou bien, il a changé. Ils disent, il a changé. Entre guillemets, il a changé, il n'est plus sunnite. Il était sunnite, hop, il est devenu chiite, hop, il est devenu mu'tazili, hop. C'est-à-dire, mettez, il a changé, c'est-à-dire, il n'appartient plus à l'école sunnite.
On ne donne pas la date ? Non. La date, c'est laquelle il a changé ?
Oui, on donne une grande considération à cela, bien sûr. C'est-à-dire, oui, tout à fait, après avoir apporté ou avant, oui, bien sûr. Donc on dit, il a changé, c'est-à-dire il était quelqu'un de bien. Alors sixième catégorie, on dit de lui, acceptable, mais il faut le renforcer. C'est-à-dire on accepte son hadith, sauf que son hadith, il faut qu'on le renforce avec d'autres hadiths. D'accord. Acceptable, mais il faut renforcer son hadith. C'est-à-dire le renforcer avec d'autres hadiths. On a parlé, on a dit, j'ai trois hadiths. Les deux hadiths, ils sont authentiques, bien, il n'y a pas de problème, chaîne de transmission, ils sont très bien, le contenu, il est parfait, etc. J'ai une autre chaîne de hadith, au milieu, on a un rapporteur, il a un problème. Le hadith, peut-être il va devenir faible à cause de ce rapporteur. Mais vu que c'est le même hadith, il est rapporté par d'autres chaînes. Ils sont authentiques, etc. Alors le hadith faible, on va dire qu'il est bon. Dernier synonyme, layyinul hadith, c'est-à-dire, il est léger dans le hadith. On dit tel, il est léger dans le hadith. Quand ils disent il est léger, il faut comprendre qu'il ne mémorise pas bien, ou bien, etc. Septième catégorie, ce sont ceux qui rapportent des hadiths plus qu'une fois. Ce sont des gens qui ont rapporté le hadith plus qu'une fois. Mais les spécialistes du hadith n'ont pas parlé d'eux qui sont fiables. Ils n'ont rien dit sur eux. Parce que normalement, quelqu'un qui rapporte un hadith, on devrait dire de lui s'il est fiable ou non. Donc ce sont ceux qui ont rapporté plus d'un hadith, mais on n'a rien dit sur eux. On n'a rien dit sur eux. Alors eux, on les appelle mastour. Mastour, c'est-à-dire celui qui est, il n'est pas dévoilé, il est couvert. On a rien de lui qui nous dit il est quelqu'un de fiable. C'est-à-dire, s'il y avait quelque chose de critiquable, on l'aurait dit. Il n'y a pas quelque chose de critiquable. Mais on ne peut pas lui donner une grande crédibilité. Donc on ne dit rien. Le fait de dire mastour, c'est-à-dire il n'est pas dévoilé. Le fait de dire il n'est pas dévoilé, Bon, il est acceptable, mais. D'accord? Parce qu'ils ont un rapporteur qui m'a rapporté le hadith. Il le regarde, est-ce qu'il a fait des dégâts, que c'est pas depuis machin, etc. Est-ce que quelqu'un, il mémorise pas et, non, il mémorise. On n'a pas trouvé des défauts flagrants. On n'a pas trouvé de défauts flagrants. Mais en même temps, on ne peut pas lui donner une crédibilité, puisque on n'a pas bien cerné son cas. On n'a pas très très bien cerné. Mais puisqu'on ne l'a pas très très bien cerné, on le laisse entre les deux, on démastore. Il est couvert. Ou bien majhoul al-hal, c'est-à-dire majhoul al-hal, on ignore son état. D'accord, on le laisse comme ça, c'est-à-dire stand-by. C'est-à-dire celui-là, il est majhoul al-hal. Il est, qu'est-ce que j'ai dit? On ignore son état. Majhoul al-hal, on ignore son état. Alors la catégorie 8, là on va commencer à partir de ce majhoul al-hal, on commence à descendre. À partir du 5, on a dit il est véridique, mais il mémorise moins. D'accord? Ou bien il oublie. D'accord? Etc. Maintenant, on est dans le 8. Hein? Le fait qu'on n'a pas trouvé de savants qui l'ont rendu fiable, ou bien de savants spécialistes en la matière qui l'ont rendu fiable, parce que tu peux trouver d'autres qui vont dire fiable, mais ce n'est pas des spécialistes en la matière. Donc c'est une catégorie où on ne trouve pas de savants qui vont rendre un rapporteur fiable. Dans la même catégorie, c'est le rapporteur qu'on rend faible, à point faible, on le rend faible sans explication. On dit tel, il est faible, mais sans s'expliquer pourquoi. On dit il est faible. Classe. Ça, c'est une catégorie, parce que normalement, on a dit quand on discrédite quelqu'un, on dit pourquoi. Mais lui, on a dit juste il est faible. Donc ça se voit que ce n'est pas trop grave.
Le 8 et le 7, pas forcément, parce que là, le fait qu'on n'a pas trouvé de savant spécialiste qui le rend fiable.
Oui. Celui-là.
Ça revient comme le 7.
Non, on n'a pas dit de lui qu'il est faible. Dans le numéro 7, on n'a pas dit de lui qu'il est faible. On n'a rien dit.
En fait, on ignore son état, mais.
On ignore son état, donc on n'a rien dit. Quand on ignore son état, on a dit ni il est fiable, ni il n'est pas fiable. On ignore son état. Majhoul al-hal. Par contre, dans le 8, on a dit il est faible. Mais on n'a pas dit pourquoi.
Ah, c'était pas un truc qui le rend fiable. La phrase que. On n'a pas trouvé de savant spécialiste qui le rend fiable. Le 8e.
Qu'est-ce qu'il a, le 8e?
La première phrase, c'était quoi?
Dans le 8e?
Oui.
Dans le 8e, on n'a pas trouvé de savant qui le rend fiable, mais en même temps, ils ont dit de lui qu'il est faible.
Ah, mais en même temps?
Ah, bah oui.
Ah, d'accord.
C'est toujours, on est toujours dans cette catégorie. Mais ils ont dit de lui qu'il est faible. Alors, la catégorie numéro 9, on trouve personne qui l'a rendu fiable, mais en plus, on dit de lui qu'on l'ignore qui il est. On ignore, c'est qui ce monsieur? On l'ignore. Un rajoulin, c'est qui ce rajoul? On ne sait pas. Quand tu ne sais pas, c'est une. On ne sait pas c'est qui, donc. Pour les savants du hadith, c'est un problème. C'est-à-dire, on ne va pas accepter ce hadith rapporté par un homme qu'on ne sait pas. Donc, le hadith, il descend complètement, il devient faible. D'accord? On s'appelle ça majhoul. On ignore qui il est. Donc, parce que, quand on dit tel, un rajoulin, on trouve tel, Ibn Hajar al-Asqalani, il dit ce rajoul-là, il est fiqa. D'accord? Ou bien il nous dit, un Ishaq ibn Muhammad ibn Rahawai. Ou bien Ishaq ibn Muhammad ibn Ahmed al-Mardasi. Ishaq ibn Muhammad ibn Ahmed al-Mardasi. Si, c'est que Ishaq ibn Muhammad al-Mardasi. Ibn Hajar nous dit celui-là, il est digne de confiance. C'est bon. Mais on cherche tous les ouvrages, tous ils nous disent majhoul hada. Personne ne le connaît celui-là. Là, ce Mardasi, d'où il vient? Si personne ne le connaît, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être qu'on l'a inventé. C'est ça le truc. C'est que quelqu'un l'a mis au milieu. Ou bien l'a mis à la place d'un autre. Que tout le monde sait. Dans une chaîne de transmission, il veut passer un hadith. S'il laisse tel, tout le monde sait ce tel, c'est chiite. Donc on l'enlève, on met à sa place un nom que personne ne connaît, juste pour faire passer le hadith. D'accord? Ça, c'est arrivé, non? Quelqu'un voulait poser une question?
Ouais. Non. C'est quoi la différence entre ça et le majhoul al-hal
Majhoul al-hal, on ignore son cas.
On le connaît, mais on ne sait pas.
On est dans ce cas-là. Majhoul al-hal, on ne le connaît pas, personne ne le connaît. Me foum? C'est quoi la question? J'ai pas compris.
Dans le 7,
il y en avait
un.
Dans le 7, Majhoul al-hal.
Alors,
alors, voilà. Dans le 7, on le connaît. C'est celui qui habite là. On le connaît, son père, on le connaît. Mais personne lui a donné un statut. Est-ce qu'il est fiable, il n'est pas fiable? Mais dans le cas suivant, ouais, numéro 9, barakallahu fik, c'est qu'on ne sait pas de qui on parle. Dans le 8, on sait de qui on parle, mais dans le 7, on sait de qui on parle, mais on n'a pas statué sur lui. Mais dans le 9, on ne sait pas de qui on parle. On ne sait même pas de qui on parle. Tu vois la différence? Numéro 10. Non seulement personne ne l'a rendu fiable, mais ils l'ont rendu faible, c'est-à-dire les spécialistes de cette science, l'ont rendu faible avec explication. Alors ils disent de lui, matrouk, c'est-à-dire il est délaissé. Matrouk, celui-là, on ne prend pas de lui. Ou bien, matrouk al-hadith. Son hadith, il est délaissé. On ne prend pas son hadith. Ou bien, matrouk al-hadith. Ou bien, wahi al-hadith. Wahi al-hadith. C'est-à-dire, son hadith, il tient pas. Wahi. Trop faible, il tient pas son hadith. Ou bien, saqat. Saqat. Son hadith, ou bien, saqat, c'est-à-dire, saqat, quelqu'un qui tombe, saqata. C'est-à-dire que son hadith, il est déchu, on va dire déchu, c'est mieux. Voilà, déchu. Alors, catégorie numéro 11, c'est la catégorie de ceux qu'on a qualifiés de menteurs. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de menteurs. Ça, voilà. Maintenant, vous allez voir, c'est la chose la beaucoup plus grave. D'accord? C'est la catégorie des menteurs, ceux qui fabriquent les hadiths. « Wal-kadhibu al-mukhtalaq al-masnu'u » Ils fabriquent les hadiths. Alors on dit deux, on l'a qualifié de menteur, ou bien muttaham, on l'accuse de mensonge. Des fois ils disent muttaham seulement, il est accusé, sans ajouter de mensonge. On comprend qu'il est accusé de mensonge. Si vous vous trouvez, il est accusé, donc comprenez qu'il veut dire c'est accusé de mensonge. Pardon? Muttaham, ça s'écrit comme ça. Tuhma, accusation. Muttaham. Alors, ça c'est la catégorie numéro 11. La catégorie numéro 12, c'est la dernière. On est toujours dans ce qu'a dit qui? Tout cela, qui est-ce qu'il a dit? Ibn Hajar al-Asqalani, le grand savant du hadith, qui a fait le commentaire de Sahih Bukhari. Man utliqa alayhi ismul kadhib wal wada'. Celui qui porte le nom de menteur ou de fabricateur. Wada, c'est fabricateur ou il y a un autre mot? Forgeur. Oh, ça se dit? Forgeur de hadith, on va dire. Hein? Ouais, ça fait forgeur en celui-là. Alors, menteur ou forgeur de hadith. Dans cette catégorie, alors on lui donne toujours le nom de menteur, ou bien forgeur de hadith, ou bien fabricateur, ou bien fabricant, ou bien fabricateur, ce que vous voulez, de hadith, ou bien donc forgeur de hadith, ou bien fabricateur de hadith, ou bien menteur, ou bien il lui donne aussi le nom de ma akhdabah. Quel menteur? C'est une catégorie. Quel menteur? C'est-à-dire il est célèbre. Il y a des ouvrages, hein, vous avez des ouvrages où ils sont cités tous les wadda'in, c'est-à-dire les noms de ceux qui mentent sur le prophète. Vous avez une série de milliers de personnes, il n'y a que leur nom. Tel siècle, tel machin, voilà, tel, c'est qa'imat al-wadda'in. Vous avez des ouvrages où on a tous les noms des gens qui sont fiables, ou bien tous ceux qui sont des menteurs.
J'arrive pas trop à voir la différence entre le 11 et le 12.
Dans le 11, on l'accuse. Il est accusé de mensonge. Mais l'autre, ça y est, c'est confirmation. Le 12, il y a confirmation et tout. Passons à un grand chapitre. Mustalah al-Hadith. Mustalah al-Hadith. La terminologie dans la science du Hadith. Les savants du Hadith ont divisé le Hadith en trois grandes catégories. L'authentique, un, deux, bimana sahih, l'authentique, hadith sahih, deux, hadith bon, hasan, trois, hadith faible, da'if. Premièrement, le hadith sahih, un, hadith sahih, authentique. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله واعتبد في ضبطه ونقله خلاص الحكاية لمتون تقول المتن خلاص La définition du hadith sahih, c'est le hadith qui est rapporté par chaîne de transmission d'un rapporteur fiable à un autre jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mémorisateur, il est fiable, il mémorise. C'est parce qu'il peut être fiable, mais il oublie. D'accord. C'est-à-dire il est digne de confiance, fiqa, tout ce qu'on veut, fiable, et mémorise, dabet, c'est-à-dire il mémorise bien, rigoureux. Ou jusqu'au sahabi, voire en dessous de lui. C'est-à-dire tabi'i. Il y a un hadith authentique qui s'arrête au tabi'i. Le tabi'i nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord. نعم هذاك المرسل نعم المرسل من الصحابي وسقط نعم et qu'il ne soit pas virgule et qu'il ne soit pas voilà يكون marginal c'est-à-dire il n'est pas marginal il porte pas un défaut caché parce qu'il peut faire il peut dans sa forme il y a aucun problème mais il y a un défaut caché il y a un défaut caché il n'est pas sahih. Donc il n'est ni marginal. Qu'est-ce que ça veut dire marginal? C'est-à-dire qu'il est bizarre ce hadith. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui... Il est bizarre. C'est pas connu par... C'est très bizarre. La chaîne de transmission, elle est bonne, authentique, machin. Il n'y a pas de... Mais le sens, comme dit Cheikh Ahmed Al-Ghimari actuellement, il a rénové une chose très importante. Il a dit, même si le hadith est rapporté par le Bukhari, même s'il est musulman, et qu'il est contraire à la réalité que tout le monde reconnaît, il n'est plus authentique. At-tasrih bil waqi'. Bah, il te dit, subhanallah, je ne sais pas moi, le clatère allait sur le corne d'un taureau, machin. Qu'est-ce qu'il va. Oui, la chaîne de transmission est bonne, mais subhanallah. Donc, ils n'ont pas, avec toutes les vérifications qu'ils ont faites, il y a quelque chose qui leur a échappé. Mais on le vérifie donc avec la réalité de Ahmed Rimal, il dit. Il a été critiqué, mais il a raison. De fond, il a raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est logique. Non. Moi, je pense que c'est logique. C'est-à-dire, ça tient. Parce qu'il a, été un peu loin. Il a critiqué d'autres hadiths dans le Bukhari. Mais c'est discutable. C'est-à-dire, on ne peut pas lui dire que tu n'as pas raison. Mais il y a des savants qui lui ont donné raison. Puisqu'on va aller voir ces hadiths-là, on va les revoir. Alors, c'est ça la définition du hadith sahih. أوله الصحيح وهو متصل il est enchaîné إسناده relis on va mot par mot pour vous donner les conditions du sahih vas-y un de vous vas-y attends hadith rapporté par chaîne de transmission c'est-à-dire il est enchaîné regardez le hadith sahih par chaîne de transmission il faut chaque mot lui donner son importance regardez bien ce que les gens aujourd'hui Alors le hadith, il est authentique, il n'est pas authentique. Lui, c'est pas, il ne sait même pas c'est quoi un hadith authentique, c'est pas un hadith. Il est sahih, il n'est pas sahih. C'est quoi un hadith sahih? Donc on a le hadith, c'est-à-dire le contenu. D'accord? Et on a la chaîne de transmission. Ensuite, on a où l'on trouve dans un ouvrage, un livre. hadith, il est dans ce livre-là. Mais il a été rapporté par qui? Premier rapporteur, deuxième rapporteur, troisième rapporteur, quatrième rapporteur. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Là, on a le hadith. Donc, la condition, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, la chaîne de transmission, elle est là. Il faut qu'elle soit la chaîne. Yarouihi adlun babeton an mithlihi. Il faut que rapporter
d'un rapporteur fiable,
mémorisateur,
à un autre.
Regardez, il rapporte d'un rapporteur fiable, mémorisateur, à un autre comme lui. Ils sont enchaînés. Donc il ne nous dit pas, c'est-à-dire, d'où tu l'as entendu, toi, monsieur le fiable mémorisateur, je l'ai entendu de tel qui est fiable mémorisateur, il l'a entendu de tel qui est fiable mémorisateur, jusqu'à qui? Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit le sahabi, soit tabi'i, celui qui est en dessous du tabi'i, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, soit celui-là c'est sahabi, donc il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tel, soit lui, c'est pas le compagnon, mais c'est le tabi'i, c'est-à-dire l'élève de sahaba. Ou bien directement, on a le sahabi, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire tel. Parce que vous pouvez voir sahabi, il va vous dire, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ceci ou cela. D'accord? Ou bien, le sahabi, il va nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord? Alors, premièrement, il faut que ça soit une chaîne de transmission rapportée par rapporteur fiable, mémorisateur de celui qui est comme lui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
jusqu'au sahabi, ouais. Jusqu'au tabi'i,
ouais.
Qu'il ne soit pas marginal.
Ah, il ne soit pas marginal. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a parlé de cela, rapporteur fiable de celui qui est comme lui, etc. Hop, maintenant, on va parler de cela. C'est-à-dire, l'étude du hadith consiste à analyser les gens, les rapporteurs qui l'ont parlé. Il faut que ce soit des gens fiables, rapportés par d'autres qui sont comme mémorisateurs. Un a rapporté de l'autre, on est sûr qu'ils se sont rencontrés. Il lui a dit, ça c'est bon, ok, il n'y a pas de problème, hop. Ensuite, on va étudier le contenu du hadith. C'est pas pour autant, puisqu'ils sont tous, masha'Allah, mémorisateurs, fiables, etc., qu'on va accepter sans regarder ce qu'ils ont dit. Non. La deuxième, première étude, c'est l'étude de la chaîne, ensuite l'étude du contenu. L'étude du contenu, il ne faut pas qu'il soit marginal. Qu'est-ce que ça veut dire marginal? Si on voit le contenu, il est bizarre. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il n'a pas prié le maghrib. Ou bien le maghrib, il a prié deux rak'at. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Ou bien quelque chose qui n'est pas connu dans le fiqh. C'est quelque chose chèvre, isolé, un cas vraiment pas connu par les fuqaha, ça ne se traite pas. Ou bien, il ne faut pas qu'il soit isolé, bizarre, ou bien, un défaut caché. C'est-à-dire, spécialiste du hadith, il va regarder le hadith, il va nous sortir un mot, il nous dit, c'est-à-dire, on a dit que cette science qui étudie les défauts cachés, c'est une science très 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 pointue que rares les savants qui sont spécialisés. Vous vous rappelez? Ce sont rares les savants qui sont spécialisés. Alors, il va prendre le hadith, il va l'analyser d'une façon microscopique. Mot par mot, contenu, etc. Hop, il trouve quelque chose que les savants normaux ne remarquent pas. Il va nous dire ce mot-là dans ce hadith. Moi, je suis un spécialiste de la langue arabe, il n'a jamais existé à l'époque du prophète. Ce mot-là n'a existé que dans le deuxième siècle. Comment il est dans le hadith? Ou bien ce mot-là, jamais le prophète n'a utilisé, puisque ce mot-là, c'est un mot qui existe chez, je sais pas, telle tribu qui est en Afrique, machin, etc. Ou bien, donc il va nous trouver une chose, ou bien ce mot-là, c'est pas de la langue arabe forte, le prophète n'utilise pas ça, c'est pas fort en langue arabe. Ou bien il va nous dire, attention, ça ne colle pas ce mot-là avec ce mot-là, etc., etc. Donc il va trouver une chose qu'un seul grand spécialiste aguerri qui peut déceler. C'est pour ça qu'on dit un défaut caché. Donc il y a toute une science là-dessus qui c'est-à-dire, c'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à grands spécialistes. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup qui sont spécialistes dans l'ilm al-hadith. Est-ce que vous avez compris? Donc le hadith, pour qu'il soit authentique, la première des choses, il faut que les rapporteurs soient tous des gens fiables, mémorisateurs, et que ce soient tous rapportés un de l'autre, et que il n'y a aucun problème dans la chaîne de transmission jusqu'au prophète, ou bien le sahabi, ou bien le tabi'i, et que le contenu aussi soit reconnu dans le fiqh, etc., il n'y a pas quelque chose de bizarre ni marginal, et qu'il n'y a pas, il n'y a aucun problème ou un défaut caché à l'intérieur. Là, on dit le hadith, il est authentique, c'est pas pour autant qu'il est directement applicable. On dit seulement, il est authentique. Ensuite, ça, le rôle du savant du hadith, il est terminé. Toi, monsieur le spécialiste du hadith, c'est quoi ton rôle? Tu étudies le hadith, tu nous dis, voilà, il est authentique. Authentique, barakallahu fik, tu rentres chez toi. Maintenant, c'est le rôle du savant de Ossoul al-Fiqh qui va nous dire qu'est-ce qu'il va faire de ce hadith-là. Est-ce qu'il va tirer de lui un commandement? En le comparant avec un autre hadith, quel est le sens qu'on doit tirer de lui? Ça, c'est une autre manche. C'est autre chose. Donc, chaque spécialiste, il a son rôle. Est-ce que vous avez compris? Donc, le grand spécialiste de Ossoul al-Fiqh, il va dire au spécialiste de hadith, puisque le Ossoul, il est spécialiste de Ossoul al-Fiqh, c'est pas ça, c'est son truc de vérifier le hadith. Il dit à l'autre, bon, est-ce que tu peux me vérifier? Ce hadith, il est bon ou il est bon? L'autre, il lui dit, il est authentique. Il est authentique, d'accord. Le spécialiste en Ossoul al-Fiqh, il va dire, est-ce que c'est un hadith spécifique? Est-ce que c'est un hadith général? Est-ce que c'est le sens que je tire du hadith? Est-ce que ce hadith-là explique le verset? Est-ce qu'il est abrogé, abrogeant? C'est autre chose. Il peut être authentique, mais abrogé. Il y a des versets qui sont abrogés. C'est des versets authentiques. Est-ce que vous avez compris? Non. Tout à fait. Donc, pour eux, ils disent, donc il y a un problème. Nous, on a tout fait pour étudier la chaîne de transmission. Donc, s'il y a un problème ici, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé ici, qu'on n'a pas vu. Donc, il y a sûrement quelque chose qu'on a tout bien vérifié, mais il y a sûrement quelque chose. De toute façon, donc, ça peut être le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, on ne sait pas. De toutes les façons, du premier jusqu'à la fin, il peut y avoir un problème. Même si chacun, indépendamment, exactement, c'est possible que celui-là, ce jour-là, il a oublié, ou il fait ceci, cela, il faut qu'on cherche d'où vient ce problème-là. C'est une étude très minutieuse, attention. Pourquoi? Parce que ça concerne la sharia. Ça concerne, on va parler des hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. C'est lourd. D'accord? C'est une lourde responsabilité. Tu vas dire aux gens ce qu'ils vont faire dans leur croyance, dans leur adoration, etc. Vous avez compris? Pour dire que les ahkam qu'on fait nous tous les jours, la prière, le jeûne, les gens ils croient que bon, il faut faire la prière comme ça. Pour que les savants sont arrivés à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, un hukm, il s'arrache les cheveux pour nous sortir quelque chose. Et l'autre, il est miskin, il boit du coca, il s'habille en jean, il vient, 20e siècle. Oh, je pense que. Qu'est-ce que tu penses à Sahbi? Moi, ici, il y a un arabophone, je lui dis, Khortobi a dit Tabari, il m'a dit, je pense. Tiens, on n'est pas dans un cours de philosophie que tu penses. Je lui dis, Khortobi, il me dit, je pense. Va comprendre. Tu peux penser avec Khortobi. Qu'est-ce que tu penses? La ilaha illallah. C'est bon pour le hadith sahih? Taïb. Alors, cette définition. C'est la définition qu'on trouve dans tous les ouvrages de hadith. Alors, pour la plupart des savants du hadith, pour que le hadith soit authentique, il faut que la chaîne de transmission soit sûre, sans rupture, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a pas le sahabi, entre parenthèses, c'est-à-dire, le hadith, il est morsel. C'est-à-dire, si dans cette chaîne de transmission, tout est bon, sauf que le sahabi n'est pas cité. Pour la majorité des savants, ce hadith, il est daïf, il est faible. Pour ça que Ibn Abdul Barr, il est venu pour dire, voilà, ce qui est dans le montant, il n'est pas faible. D'accord? On parle de la majorité. Donc, pour que le hadith soit authentique, il faut que tout le monde soit cité, y compris le sahabi. Ça, c'est l'avis majoritaire. On a cité une définition, mais là, on cite l'avis majoritaire, reconnu par tout le monde. D'accord? Parce que vous allez trouver, chez le malikite, quelques savants malikites qui acceptent que le sahabi n'est pas cité. Donc le hadith, il est authentique pour eux. Mais l'avis majoritaire, même si le sahabi n'est pas cité, le hadith n'est pas authentique. Il faut que tout le monde soit cité, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le hadith devient faible s'il y a rupture dans sa chaîne de transmission On n'a pas encore parlé de hadith, c'est-à-dire les hadiths faibles. Hein. Juste, on rajoute cela. Le hadith, c'est-à-dire, on a dit la condition, il faut que la chaîne de transmission soit complète. Donc s'il n'y a pas de sahabi, le hadith n'est pas authentique. S'il y a rupture, qu'est-ce que ça veut dire, il y a rupture? Il y a rupture, c'est-à-dire vous avez, regardez, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez une rupture, celui-là il n'est pas cité, ou bien celui-là il n'est pas cité, ou bien celui-là il n'est pas cité, ou bien celui-là il n'est pas cité, quelque part, soit là, s'il y a une rupture quelque part, le hadith n'est pas authentique. Oui. Voilà, exact, par exemple, il va nous dire, vous savez, le tabi'i, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il va nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il n'y a pas de sahabi. Ou bien, l'élève du tabi'i, il va nous dire, le sahabi a dit, donc il saute un maillon dans la chaîne. On va pas dire, ça veut dire marginal. Marginal veut dire que ce qui est rapporté par ce rapporteur fiable, ce qui est rapporté dans ce hadith par ce rapporteur fiable, ne soit pas contraire ou opposé à l'ensemble des rapporteurs fiables. Qu'est-ce que ça veut dire? Un hadith devient marginal quand vous avez un hadith qui est rapporté par quelqu'un qui est fiable, mais le sens du hadith, il est complètement contraire et l'opposé de tous ceux qu'on connaît qui sont fiables. Donc il n'y a que lui qui a dit ça. Non seulement il a dit ça, mais il a dit le contraire de ce que tout le monde a dit. Donc ce hadith-là devient chève. Pourquoi on dit cela? Écoutez, c'est très important. Vous avez 30-40 personnes qui rapportent le hadith, ils sont tous fiables, ils sont tous d'accord sur une chose. Ils la rapportent dans le hadith. Et vous avez un seul qui dit le contraire de ce que tous les autres ont dit. Qui est-ce qui a raison? C'est les 20 ou 30 ou 1? C'est la majorité. Non seulement la majorité, mais c'est la majorité absolue, parce qu'il n'y a que lui. Ce n'est pas 4 ou 5 on dit comme ça, 4 ou 6 on dit. Non. Il y a un, il a dit ça, et tout le monde a dit le contraire. Alors, le hadith est authentique, c'est le hadith de tout le monde, et son hadith, lui, il n'est pas authentique. Bien que la chaîne de transmission, elle est bonne, mais vu que c'est lui seul qui a rapporté quelque chose qui est contraire, alors, son hadith, il n'est pas authentique. Alors, vous imaginez ça? C'est que seulement dans la science du hadith. On rapporte la parole du professeur Aslan. Que dire de celui qui est marginal par rapport aux avis des gens dans le fiqh et dans l'aqida? Vous avez un, il dit une chose, et 99, Oma dit autre chose. Et celui-là, il est marginal du marginal. Donc vous avez compris ce que ça veut dire marginal. Troisièmement, donc on a dit premièrement, on a parlé de la chaîne de transmission. Deuxièmement, le fait qu'il est marginal. Troisièmement, le fait qu'il a un défaut caché. C'est le hadith qui porte en lui un problème, donc un défaut caché dans le sens ou dans la langue arabe, bien que dans sa forme, il nous paraît normal, sans problème. Le sahih peut être le hadith authentique peut être un hadith authentique par lui-même. Le hadith authentique, il est authentique par lui-même.
Là, c'est un défaut caché.
On a terminé. Maintenant, point à la ligne. On est en train d'ajouter qu'est-ce que ça veut dire le hadith sahih. C'est-à-dire, on a terminé. J'ai parlé de marginal, j'ai parlé de. Maintenant, point à la ligne, on parle maintenant. C'est-à-dire, on en rajoute. D'accord? Donc, le hadith peut être authentique par lui-même, ou authentifié, ou bien authentique par l'extérieur. Authentifié par quelque chose, par autre chose, par un autre. Ou bien, on va dire, par un autre hadith extérieur. Là, il était renforcé. Par un autre hadith autre que lui. Comme le hadith qui est bon, mais il est rapporté par plusieurs chaînes de transmission. C'est un hadith bon, mais il est rapporté par 30 chaînes. Toutes les chaînes sont bonnes. Donc, on les rassemble tous, ça nous donne que ce hadith, il est authentique. Bon. Donc, il est authentique. il est élevé au degré de l'authenticité. Par cela.
Mais quand il est bon,
Hassan. C'est un degré, hein. Bon, il est, c'est pas authentique. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas encore parlé du hadith Hassan, hein. On va en parler. Là, on est toujours dans l'authentique. Je vais vous parler de ce que ça veut dire un hadith bon. Non, 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 non. J'ai donné juste un exemple. 7, 8, 9, 5, 6, c'est bon. À partir de 4, 5, 6, c'est bon. Le hadith sahih peut être authentique, rapporté par un nombre très important, entre guillemets, on l'appelle mutawatir. Mutawatir. Quand vous avez un hadith authentique mutawatir, c'est-à-dire, vous savez, l'étude de la science du hadith concerne les trois, en général, les trois premiers siècles. Parce que les savants, Bukhari, Muslim, etc., 3e siècle, 4e siècle, c'est eux, ils sont là. Donc, vous avez, dans les 3 siècles, vous avez un hadith. Hadith, il est rapporté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus. D'accord? Regardez, il y a combien de chaînes? 10 chaînes, voire plus. D'accord? 10 chaînes, voire plus, ça s'appelle mutawatir. Donc vous voyez, et tous, elles sont, toutes les chaînes, elles sont authentiques. Donc c'est un hadith très authentique. Puisque une chaîne seulement, elle est authentique. L'autre, elle est authentique, fiat, tout ce que vous voulez. Alors celui-là, qui a pris 10 chaînes, donc il est. D'accord. Le Coran, il est tous rapporté comme ça. Tout le Coran, il est rapporté comme ça. Des centaines et des centaines, pas 10. Alors, s'il est rapporté par 3 ou 4 jusqu'à 10, mais qui sont authentiques, 3 ou 4, on va dire, de 3 chaînes jusqu'à 9 ou 10, on l'appelle mashhour. Mashhour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mashhour? Ça veut dire, on n'a pas le nombre, on a que ça. Regardez. On a combien de chaînes? Ce sont authentiques les chaînes. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Si on a 9, on ne va pas jouer sur les chiffres. Bon, il peut être mutawatir. Donc à partir de moins de 8, il est mashhour. Vous avez compris?
C'est-à-dire en fait que le hadith, il va arriver par 5, 6, 7, etc. Voies différentes.
Tout à fait.
Jusqu'à 3,
tout, mais chaque voie, elle est authentique.
Oui, oui, oui.
D'accord, exactement. Non, au-dessus de le Bukhari, hein?
Oui, oui, oui.
Ouais, pas en dessous.
Oui, oui, au-dessus.
Ouais. Alors. Par contre, si le hadith il est rapporté par une ou deux seulement, le hadith s'appelle ahad. Il est authentique, puisque la chaîne elle est authentique, une ou deux, il s'appelle ahad, c'est-à-dire rapporté par une ou deux chaînes.
Non. Juste une petite question. Si, par exemple, c'est 10.
C'est ce que j'allais dire. Je vais expliquer.
D'accord.
Je vais l'expliquer. Alors, vous avez tous compris jusqu'à présent. Parce que c'est pour ça que je préfère aller doucement, doucement. Tout le monde a compris là? Vous avez compris? Tout le monde a compris jusqu'à présent. La chose suivante, elle est très importante. Nous, on parle toujours de trois premières générations. C'est dans les trois premières générations qu'on détermine l'authenticité, que le hadith il est faible ou bien il est, etc. Dans les trois premières générations. Au-delà, non. C'est pas dans la dixième qu'on va parler. Non. Le hadith, les livres de Zubar du hadith sont tous écrits dans les trois premières générations. Sahabi, tabi'i, atba' tabi'i, atba' tabi'i, khlas. On a ici la première génération, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tous ils ont entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième étape, combien ils l'ont entendu? Il y en a deux. Troisième étape, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans quelle catégorie on le met ce hadith? Vous avez mutawatir, vous avez mashhur et vous avez ahad. On le met dans le ahad. D'accord? Il faut la condition pour qu'il soit mutawatir, il faudrait que ce soit dans chaque génération plus de 10. qu'il soit mashhour dans chaque génération, dans trois surtout, minimum neuf. S'il est ahad, là ou là ou là, qui a un ou deux rapporteurs dans la première ou la deuxième, troisième, il est considéré comme ahad. Est-ce que vous avez compris? C'est la question. Tout le monde a compris? Rappelez-vous, au début, on a dit le hadith, il est bon. La chaîne de transmission, tous ils sont fiables, jusqu'au professeur, il est authentique, il n'y a rien à dire. La question, deuxième question, après avoir dit qu'il est authentique, quelle catégorie d'authentique? Est-ce que c'est la catégorie qui est rapportée par un ou deux? Est-ce que c'est la catégorie qui est rapportée par de 3 jusqu'à 9? Est-ce que c'est la catégorie qui est rapportée par plus de 10? S'il est fait partie de la catégorie de plus de 10, donc il n'y a rien à dire. Il est non seulement il est authentique, mais il est rapporté par, on l'appelle mutawatir. S'il est rapporté par 3 jusqu'à 9, on l'appelle mashhour. S'il est rapporté par 1 ou 2, il est authentique aussi, mais on l'appelle ahad. Mais ce qui est pris en considération, c'est une condition dans chaque étape, chaque génération. C'est-à-dire, dans la première génération, j'ai 20 qui l'ont rapporté. Très bien. Dans la deuxième génération, j'ai 30 qui l'ont rapporté. Masha'Allah. Dans la troisième, j'ai que 2 qui l'ont rapporté. Je tiens en considération le minimum. Donc, il devient ahad. Donc, si ces deux-là étaient au premier, au deux, au trois, moi, je vise directement le minimum. Il est où? Il y a le minimum ahad. Je ne cherche pas. Même si dans la quatrième, il y a 1 milliard qui l'ont rapporté. Ce n'est pas mon problème.
Parce qu'ils sont tous rapportés du même, de la même personne, en fait.
Parce que, pourquoi? Barakallahu fik. Parce que, du moment qu'il y a un ou deux, l'erreur, elle est possible. C'est pour ça qu'il est moins fort.
C'est-à-dire, même les 10, par exemple, la 10, Tabi'i, il ne faut pas qu'il y ait de chances que les uns se soient rencontrés les uns les autres.
Malish, ils se rencontrent. Malish. Okay. Un, il a pris de l'autre, mais ils l'ont rapporté à qui? Il faut que j'ai plusieurs chaînes à la condition. J'ai plusieurs chaînes. Est-ce que tu as compris? J'ai 1, 2, 3, celui-là il a rapporté de celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là il a rapporté à celui-là, celui-là. Celui-là a rapporté à celui-là, celui-là. J'ai combien? J'ai plus de 10. Mais tous ces 10-là qui ont la première génération, j'ai 10. Mais ces 10-là, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils n'ont rien dit. Cinquième, sixième, septième, huitième, ils n'ont rien dit. Il n'y a que le 5 et le 6 qui a rapporté à 1 ou 2. D'accord? Même le 1 ou le 2 de la deuxième génération, s'ils ont dit ça à 100 personnes, ce n'est pas mon problème. Le hadith, il est ahad. Est-ce que tout le monde a compris? Je ne suis pas un peu d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que même s'ils sont tous ce qu'ils lui ont dit, tous, ils ont dit à ces deux. Les 10, ils ont dit. Il n'y a pas que celui-là, celui-là, celui-là. Lui aussi, ils lui ont dit. Pour ça, des chaînes distinctes. Ça, ce n'est pas des chaînes distinctes. Le hadith, il reste ahad. Pourquoi? Parce que le fait, il est authentique, hein? Le fait que c'est deux seulement qui l'ont transmis, donc l'information, elle est restée entre les mains de deux. C'est bon? Tout le monde a compris? Ça, ce que je suis en train de vous expliquer, je vais être un peu méchant. Les barbus que vous allez dans les mosquées qui vous voient parler du hadith, wallah, ils ne connaissent pas ça. Grand, djellabiyya, hadith, machin, c'est n'importe quoi. Wallah, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont jamais été dans une table à prendre écrit, machin. Pas tous. Pas tous. Mais plein. La Bible ne fait pas le moine. Ce n'est pas. Il ne faut pas. C'est des sciences très pointues. Wallah, ils vous des connaisseurs. Si vous suivez, vous allez. Il faut aller doucement, doucement. Parce que il y a des détails que beaucoup ignorent. Wallah, ils ignorent. Wallah, ils passent à la télévision avec une barre. Il fait Wallah, ils ne connaissent pas ça. Des détails, je dis. Il y a plein qui connaissent. Mais Wallah, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. On les connaît très très bien. On les connaît. Ils ont écrit des ouvrages. Donc. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ah, non. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, vous voulez dire, il y a... Absolument. Dites-le comme il y a des gens. Vous voulez dire, est-ce qu'il y a, quand on ouvre un livre aujourd'hui, des savants de référence, on ne se casse pas trop la tête, on dit c'est des gens, c'est des références, on connaît par la Oma, donc je ne veux pas me poser mille questions, je pense qu'il dit. C'est ça votre question. C'est très important ce que vous poserez comme question. C'est que les gens de référence aujourd'hui, qui sont connus par la Ummah pendant, je parle par exemple historiquement, pendant des siècles, ils étaient connus par la Ummah, à travers le monde musulman, on essaie d'enlever la crédibilité à ces gens-là aujourd'hui. Discréditer. Pas tous, mais on essaye. Je peux vous donner un exemple. Vous allez poser une question, je vais direct, je vais nommer les choses, un wahhabi. Quel est le meilleur ouvrage qui regroupe la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Meilleur livre, je veux voir les paroles du prophète, il y a un meilleur ouvrage, authentique. Il va vous dire Sahih Bukhari. Il y a deux grands ouvrages, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Tout le monde est d'accord sur ça. Ok. Quel est le meilleur commentateur fiable, reconnu par tout le monde? Tous. On va vous dire, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Nawawi. Très bien. Que penses-tu de leur croyance? Il va te dire, ils sont dans la croyance, ils sont égarés. Est-ce que c'est logique? Vous trouvez ça logique? Que le meilleur ouvrage, commenté par les meilleurs commentateurs, dont leur croyance, ils ne sont pas bons? Alors, nous, le commun des gens, comment est notre croyance? Celui qui vous dit ça, c'est lui qui a un problème. Alors, ces gens d'Arabie Saoudite, ces gens les wahhabites là, vous allez trouver dans leurs ouvrages, ils vont vous dire ça. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Tabari, l'imam, dans la croyance, c'est pas. Il n'y a que eux qui sont dans le bon chemin. Alors, ce qu'il faut retenir, Ayyuhal Karim, que des grandes sommités connues par notre histoire, qui ne connaît pas l'imam Abu Hamd al-Ghazali, qui est tellement, c'est une sommité, on a donné le surnom de Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam. Quand quelqu'un vient et vous dire, oh, sa croyance, il est soufi, il est... T'es quoi toi par rapport à lui? Une poussière dans un océan. Quand tu compares un mammouth à une bactérie, c'est subhanallah. Donc vous comprenez ce que je vous dis? Vous prenez le Ghazali, vous prenez... Le problème c'est que nos jeunes aujourd'hui, ils n'entendent même pas parler de ces sommités. On leur a tellement bourré le crâne de quelques chouillures d'aujourd'hui, de chouillures, qu'on les a élevés au rang des grands savants. Moi, des images, je leur parle des noms, ils n'ont jamais entendu parler. Ce sont des frères qui donnent des prêches le vendredi. Je leur donne l'imam al-Kawthari, ils n'ont jamais parlé de lui. Et pourtant, il ne date pas de mille siècles. C'est le grand mufti de l'Empire Ottoman. C'est une sommité inimaginable. C'est le grand cheikh qui, à son époque, tous les savants de l'Azhar venaient apprendre de lui. C'est 1950. Mais allez-y dans toutes les bibliothèques, les librairies que vous avez ici en France seulement, cherchez un seul livre de Al-Kawthari, vous allez voir si vous le trouvez. Mais non. Par contre, les livres de Al-Uthaymi, de Ibn Baz, les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim al-Jawziyya, alors là, vous avez le même livre à 1000 éditions, hein, rouge, blanc, marron, tout ce que vous voulez. Maintenant même, quand vous touchez, c'est... Maintenant, c'est ça la question. On a des sommités, Cheikh Al-Bouti. Moi, je peux vous donner des listes. Qui sont nos savants? Ce sont les savants des quatre écoles. Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite, Malikite. Ceux qui sortent de cette école-là, jetez-les. Ceux qui n'est pas étudié, je ne suis ni Maliki ni Shafi'i, moi je suis le livre de la Sunna. Va boire du jus d'orange ou rire tranquille. Donc, ceux qui suivent les écoles, prenez deux. Ceux qui sont cadrés dans ce que les grandes universités enseignent, telles que l'Azhar, Al-Qarawiyyin, Souyaki, Nodon, préserver la religion pendant des siècles, ce sont ceux-là qu'il faut suivre. Et ils sont connus. Vous avez Cheikh Al-Bouti, vous avez Cheikh Al-Ghazali actuellement, Cheikh Al-Qardawi, vous avez Cheikh Sha'raoui. Et dans notre histoire, c'est des milliers. Je raconterai une fois, j'étais avec mon Cheikh, Rahimallah, avec des petits jeunes qui sont venus polémiquer avec lui. Il a dit au Cheikh, voilà, il a commencé à argumenter, etc. Cheikh lui a dit, mon fils, lui il a 20 ans, 21 ans, ce jeune homme. Le Cheikh, il est mort à 101 ans. Il était imam en 1917. Vous imaginez? 1917, comme il me dit, j'étais imam quand l'Empire Ottoman existait, j'étais imam sur la colonisation française, je suis imam dans l'indépendance de l'Algérie. Et qu'est-ce qu'un gamin de 19 ans vient raconter, si tu racontes toi? Il vient lui corriger. Moi, je suis venu pour te vérifier des hadiths qui sont dans le Muwatta que vous utilisez, vous, les chers. Cheikh lui a dit, bon, dis-moi d'ailleurs les savants sur qui tu te bases. Question naïve. L'autre, il a commencé à lui citer. Alors, il y a Ibn Taymiyyah, il y a Ibn Al-Qayyim, il y a Mohamed Ibn Abdul Wahhab, Al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Il est arrivé à 19-20, il a commencé à réfléchir. C'est terminé, la liste elle est terminée. 21, 22, classe, il n'y a plus. Cheikh lui a dit, une umma qui a duré 15 siècles à travers tout cet espace géographique et qui a dominé le monde pendant 8 siècles, elle n'a que 23 savants. 23 savants, tu vas à la Sorbonne, tu as des 100, hein, tu as 200 docteurs, chercheurs. Il lui a dit, mon fils, il y a combien de lettres dans la langue arabe? L'autre, il lui a dit, il y a 28 lettres. Écris-les 28 lettres. Sache qu'en faisant n'importe quelle combinaison entre ces lettres-là, ça te donnera un savant sunnite musulman. Fais toutes les combinaisons possibles. Tellement nos savants, c'est par milliers, voire par millions. C'est pour répondre à la sœur. Ceux que j'ai cités, Ukhti al-Karima, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ce sont leurs ouvrages qui sont partout aujourd'hui. Partout. En français, en arabe, en français vous avez des traductions, partout. Je parlais avec des Azharites, des gens qui sont partis d'ici en France. Hein. Ils ont fait l'Azhar, machallah, ils ont fait une bonne formation. Je sais que l'Azhar, le Wahhabisme est rentré même à l'Azhar. Je parlais avec eux, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Malheureusement, tous les instituts enseignent le Wahhabisme, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Tous, sans exception, qu'on dit tous. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire tous. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez étudié à l'Azhar comme ouvrage de référence dans le Tawhid, la croyance? Ils m'ont dit, Aqidat Tahawiyah Bisharh ibn Abil Az al-Hanafi. Bon, c'est de l'automorphisme pur et dur. Et encore, il m'a dit, on a étudié les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et encore, que ça. Je dis ça. Toute l'histoire de l'Égypte, vous avez étudié aucun savant égyptien, il n'y a aucun savant qui a écrit dans le Tawhid, ni maghrébin, ni syrien, ni jordanien, ni indien, ni pakistanais, ni turc, il n'y a rien. Vous avez trouvé que, au moins, ça représente un courant. Lisez au moins l'autre courant quand même. Notre cheminement, elle marche selon le cap de la Oumma pendant 14 siècles. Comme marche l'Azhar, comme marche la Zaytouna, comme marche le Qaraouien au Maroc. Tout ce qui sort du cadre de la Oumma, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 15 siècles, on le rejette. Malheureusement, c'est une grande histoire, Urti. Ces Saoudiens-là, qui sont au pouvoir, ou bien le mouvement wahhabite, comment il est arrivé au pouvoir? Ce sont les Britanniques qui les ont mis au pouvoir. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont enflé l'Empire ottoman, ils les ont mis au pouvoir. C'est un pouvoir fantoche. Je suis désolé de le dire. Qui n'a rien à voir. Un arbre, tu le coupes de ses racines, il meurt. Ils veulent couper la Oumma de ses racines. C'est des choses qui sont claires, nettes et précises. Sans parler de leur position politique, géostratégique, etc., qui c'est une catastrophe pour le monde musulman. Je parle du point de vue croyance, fiqh, etc., c'est désastreux. Donc on essaye de propager des livres qui n'ont aucune importance dans notre histoire. C'est exprès. Parce que si vous laissez des livres de référence dans la Oumma, ils vont faire leur effet. Mais quand vous mettez des livres de bêtises, vous aurez une Oumma déchiquetée qui raconte n'importe quoi. Voilà, grosso modo, qu'il faut faire très attention quand vous achetez des livres et à qui il faut lire. On a des grandes sommités reconnues par la Oumma, il faut les reconnaître qu'ils sont. Taïb, jusqu'à présent, tout le monde a compris que cette répartition de hadith ahad, hadith mashhur, hadith mutawatir. Non. Défaut caché, non? S'il a un défaut caché, il est faible, on n'en parle plus.
Voilà, ce que je veux dire, sans parler d'authentique ou tout comme ça, s'il a un défaut caché,
S'il a un défaut caché, le défaut caché, il l'a dedans, pas dans la chaîne.
Oui.
S'il a un défaut caché dedans, on ne regarde même pas la chaîne de transmission. Hop, il est faible.
Mais ce que je veux dire, si un hadith, c'est le tawatir, il est rapporté par beaucoup de chaînes de transmission.
Même si le hadith, il est rapporté dans la première par 30, dans la deuxième par 40, dans la troisième par 100, et dans le hadith, on a découvert un défaut caché, il est faible. C'est que parce que dans une des chaînes, ou bien on n'a pas vérifié, tu as 30, parce que ce n'est pas parce qu'il y a 30, c'est 30 authentiques. Il ne peut pas y avoir un hadith mutawatir, c'est-à-dire en même temps il est sahih, authentique, mutawatir, Et en même temps, il a un défaut caché, ça n'existe pas. C'est-à-dire, si on dit que le hadith il est mutawatir, khlas, il n'a pas de problème. Je parle pas après avoir authentifié le hadith, je parle avant. Comment les savants ils font pour l'authentifier? Moi, je suis en train de parler comment ils vont pour l'authentifier.
Mais en fait, la question c'est comment il peut avoir un défaut caché si, en fait, il y a plusieurs sources qui l'authentifient.
Tu as dit plusieurs sources qui l'authentifient. Justement, personne ne l'a authentifié. On est en train de voir si on va l'authentifier ou non. C'est pour ça que je te dis, on va voir comment il est. On n'a pas encore authentifié. On a plusieurs chaînes. On étudie chaque chaîne à part. Déjà, si toutes les chaînes elles sont bonnes, il n'y a aucun problème. Elles sont tous bonnes, il n'y a aucun problème. Elles le rapportent, etc., etc. On va regarder son intérieur. Si son intérieur il a un défaut caché, on ne va pas dire qu'il est authentique. Directement, sans regarder les chaînes, on va dire qu'il est faible. Donc il y a un problème. Nous, peut-être au niveau d'une des chaînes, peut-être dans deux, trois chaînes, peut-être ils ont fait confiance à quelque chose. Il y a quelque chose qui a échappé, qu'ils ne se sont pas rendus compte. C'est la même question qui sera posée. C'est qu'il y a quelque chose qui leur a échappé.
C'est pas une question dans le sens où